explose, il devient très grand, il crée quelque chose de très grand. Et on a vu ce passage-là qui parlait de Jésus, hein, qui nous dit que la foi, c'est comme un petit grain de moutarde. Donc, quand on remet à Dieu le petit peu de foi qu'on a, Dieu peut en faire quelque chose de grand. Donc, Dieu veut augmenter notre foi. Et ce matin, on continue un petit peu sur ce thème-là, mais on va aller un petit peu plus spécifiquement dans les disciplines qui nous aident à faire grandir notre foi. On va faire quelque chose d'un peu inhabituel. Donc, ce matin, j'ai des collaborateurs dans l'Assemblée qui vont venir nous aider, dans cette prédication-là pour aller enrichir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire ce matin. Donc, commençons déjà dans la parole de Dieu. Ce matin, je ne vais pas relire tout le texte qu'on a lu ensemble dans Matthieu et dans Marc il y a deux semaines. Par contre, on va se focusser vraiment sur la fin de ce texte-là, parce que c'est là où on va aller creuser un petit peu plus. Donc, débutons ensemble avec une petite révision de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qu'on a vu il y a deux semaines? Nous avons vu que Dieu souhaite que notre foi grandisse et qu'il peut se servir d'une petite dose de foi quand on lui confie. Donc, un petit peu, on était dans le texte de Marc 9 et on a regardé aussi le texte de Matthieu 17, là où le père emmène son enfant malade aux disciples, hein, son enfant qui était sous l'emprise d'un esprit, et les disciples ne sont pas capables de le guérir. Et donc, Jésus demande au Père, hein, il réagit au commentaire du Père plutôt, parce que le Père lui dit, « Si tu peux, hein, guéris mon enfant. » Et Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et l'homme lui répond, « Seigneur, viens au secours de ma foi. Je crois, viens au secours de ma foi. » Donc, il lui présente le petit peu de foi qu'il a et il demande à Jésus d'aller augmenter cette foi-là. Il lui confie sa petite foi. Nous avons vu également que notre manque de foi peut parfois limiter l'action de Dieu en nous et à travers nous. Par exemple, quand il est question de guérison, comme dans ce texte-là. Hein, c'est ce que nous avons vu que Marc et Matthieu nous présentent, mettent un accent un peu différent dans le texte. Donc, on en a un qui met l'accent sur l'interaction que Jésus a avec le père de l'enfant, et l'autre qui nous donne un peu plus de détails sur l'interaction entre Jésus et ses disciples. Et il va leur dire qu'ils ont manqué de foi. Donc, Dieu veut agir à travers nous, mais il veut qu'on mette notre foi en action, donc qu'on agisse avec foi. On a vu également que la foi dépasse les limites prévisibles de nos attentes humaines, c'est-à-dire qu'on a un grand Dieu, on n'a pas un petit Dieu. Si Dieu était capable de faire seulement la même chose que moi je suis capable de faire, ben ça ne serait pas Dieu, ça serait une idole. Un Dieu à ma hauteur, à ma grandeur. Mais Dieu est plus grand que moi. Il est capable de faire plus que ce à quoi je m'attends. Et donc, ma foi est appelée à grandir et à dépasser mes attentes. Dieu veut que je fasse de la place dans mon cœur pour lui. Donc, ce grand Dieu-là qu'il est. Nous avons vu également qu'il y a un danger, par contre. Lorsqu'on met notre foi en action, lorsqu'on considère notre foi, le danger, c'est de laisser un peu nos déceptions, notre peur, notre orgueil, toutes ces choses-là qu'on vit à l'intérieur, dicter notre niveau de foi. Donc, parfois, on va dire, ben moi, j'ai prié pour ça, Dieu n'a pas répondu de la manière dont je voulais, donc Dieu n'est pas capable. Donc, on est en train d'abaisser Dieu ou de définir Dieu en fonction de la déception peut-être qu'on a vécue ou de l'incompréhension. Et on a vu aussi que les doutes, les questionnements dans la foi, les déceptions, ça fait partie de l'expérience chrétienne. Ça fait partie des choses dont avec lesquelles on doit lutter, avec lesquelles on doit vivre comme chrétien. Hein? Dieu ne répond pas toujours quand on voudrait, il ne répond pas toujours comme on voudrait, mais on est appelé à avoir une foi qui est basée sur la parole de Dieu et pas nécessairement sur nos déceptions, sur nos craintes. Ou sur notre orgueil ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait influencer notre foi. Donc, on veut une foi qui est biblique. On a vu également que notre foi doit être bien orientée, et là, je reviens un peu à ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'elle doit être ancrée dans la parole de Dieu. Donc, on accepte la souffrance qui fait partie de notre vie, mais on ne s'y résigne pas. Donc, un peu comme les gens, ils savaient que la personne dans leur vie, elle est malade. Ils ne faisaient pas semblant que la personne, elle n'était pas malade. Ils ne faisaient pas semblant qu'il n'y avait pas de problème. Mais ils apportaient ce problème-là à Jésus. Ils ne restaient pas chez eux avec ce problème-là en se disant, « Ben là, tu sais, mon enfant est malade, il n'y a pas rien que je peux faire. » Non, le Père a eu la foi d'amener son enfant vers les disciples de Jésus et plus tard vers Jésus lui-même. Donc, on a une foi qui est à la fois réaliste et audacieuse. Donc, on accepte que certaines choses font partie de la vie, mais on ne s'y résigne pas nécessairement. Et c'est là que la foi devient une foi qui est mature, une foi qui est intelligente. On a vu également qu'il vaut mieux parfois avoir un peu trop de foi que pas assez. Donc, on a vu que le Dieu de la Bible, souvent, va venir un peu comme cette fusée-là qu'on lance dans les airs et qui devient un feu d'artifice. Dieu, lorsqu'on lui donne notre foi, il peut venir étendre notre foi, il peut venir la rendre plus grande. Et on est appelé à avoir, comme disciple de Jésus, à s'attendre à de grandes choses de sa part. Donc, c'est ce qu'on a vu il y a deux semaines. Et tel que discuté, on entre dans la deuxième partie de ce message-là, qui est en fait basée sur le même texte biblique. Donc, on va aller voir aujourd'hui deux ingrédients qui nous permettent de faire mijoter notre foi. Donc, vous comprendrez bien que c'est une analogie ici, une analogie de cuisine. Et donc, on va aller voir un petit peu plus dans le texte de quoi Jésus parle avec ses disciples. Parce que les disciples, on se souvient, hein, le Marc nous dit qu'ils ont déjà effectuer des guérisons, des délivrances par le passé avant d'arriver à Marc 9. Ils l'ont déjà fait. Jésus leur a même commandé, leur a donné l'autorité de le faire. Et pourtant, ils arrivent devant cette situation-là, avec cet enfant-là, et la Bible nous dit qu'ils ne sont pas capables de le guérir. Donc, Jésus va leur expliquer qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et ça, on va le voir dans Matthieu 17, les versets 19 à 21. Et c'est sur ce passage-là plus spécifiquement qu'on va creuser ce matin. Donc, le passage nous dit ceci. Vous allez pouvoir tourner avec moi si vous le souhaitez. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là, » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Donc, le jeûne, c'est quelque chose qui prend du temps. Hein? Si je vous disais que j'ai jeûné depuis que j'ai déjeuné ce matin, vous me diriez, ben là, c'est pas vraiment un jeûne. Hein? On n'est même pas rendu à l'heure du dîner. Là. C'est juste normal, ton affaire. Donc, le jeûne prend du temps et parfois la prière également, elle prend du temps. On a vu qu'il y a différents commentateurs qui suggèrent que peut-être les disciples étaient devenus un petit peu confiants dans leur propre capacité à prier pour les gens puis que les gens soient délivrés. Et peut-être que, et là, ça, c'est une hypothèse, bien sûr, ce n'est pas nécessairement ce que le texte nous dit, mais peut-être qu'ils avaient un peu négligé ça, la prière. Peut-être qu'ils avaient négligé ça, le jeûne, dans leur ministère. Et Dieu les rappelle à la nécessité d'utiliser ces deux outils-là. Donc, ce matin, je vais inviter mes deux premiers collaborateurs, Élie et Josué. Donc, Élie et Josué vont venir nous aider pour faire une leçon d'objet ce matin. Donc, on va cuisiner quelque chose ensemble. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça, les émissions de cuisine? Oui, Masterchef, des compétitions. Est-ce qu'on a des cuistots dans la place, des gens là, qui s'y connaissent? Donc, on a notre cuisinier qui a devant lui une recette avec les trois ingrédients qu'il va mélanger ce matin. Donc, ces trois ingrédients-là sont juste devant lui, il a sa tasse à mesurer et il se met en action. On a à côté, tu peux y aller tout de suite, on a à côté de lui notre goûteur. Donc, c'est lui qui va venir juger un petit peu, là, comme la compétition, la télévision, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Donc, il commence sa recette, il fait une recette ce matin, il va nous faire une recette de, ouais, peut-être notre goûteur. Des macarons au chocolat. Y en a-t-il qui connaissent c'est quoi des macarons au chocolat? Oui, peut-être notre goûteur peut montrer l'assiette. Là, ça ressemble à quoi un macaron au chocolat? Est-ce que tu voudrais nous montrer, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un dessert québécois, vraiment simple et rapide à faire. Donc, on a le produit fini ici. Et là, on va avoir notre cook qui va nous faire la recette juste ici à côté. Pendant qu'ils nous cuisinent ça, est-ce qu'on a déjà des observateurs de cuisiniers dans la place qui voudraient nous partager leurs observations? Est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier ce matin? Le chef est très concentré, oui. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des macarons à la maison? Il y a du coconut. Il manque du coconut, OK. Est-ce qu'il manque autre chose? Comment? Le beurre, oui.
Et le four?
Oui, effectivement. Effectivement. Mais moi, je me suis dit ce matin, tu sais, c'est tout relatif, cette affaire-là. On a-tu vraiment besoin d'ingrédients liquides comme le beurre, le lait? Moi, j'avais pas envie de faire des macarons cuits sur le four non plus. Je me suis dit, dans le fond, on a pris des bons ingrédients. C'est des ingrédients qui sont dans la recette. Je vois pas c'est quoi le problème, en fait. Mais on va voir qu'est-ce que le goûteur va nous en dire. On va voir s'il est d'accord avec nous ce matin. On va voir. Peut-être que ça va marcher. C'est des bons ingrédients. Ils sont dans la recette, non? Vous êtes d'accord avec moi? On met du cacao, on met du sucre, on met du gruau. Voyons voir. Et là, la tension monte, là. J'aurais dû mettre un chronomètre aussi, là, pour te mettre un peu plus de pression à l'avant. Généralement, dans les émissions, ils ont toujours des chronomètres, là. Puis il y a une petite musique de suspense, là, derrière aussi. Tic-tac, 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 tic-tac. On va y arriver. Il va même avoir le temps de brasser, là. On espère. Non, c'est correct. T'es bon. Je dirais pas que le juge n'a pas de se juger sévèrement, par contre. On va voir. Mais apparemment que c'est un bon cook, lui, à la base. Donc, c'est pour ça qu'on l'a choisi comme cook, là. Dans le fond, un bon cook, des bons ingrédients, ça devrait être correct, non? Donc, on va vérifier juste pour être sûr. Donc, tu peux mélanger. Tu vas pouvoir montrer aussi à l'assemblée ton mélange, à quoi ça ressemble, en penchant légèrement le bol, pas trop, pour pas qu'on ait un beau dégât en avant. On voit qu'il est très méticuleux dans la manière dont il mélange son mélange, là. Et là, là. Je suis désolée, si vous écoutez le message en rediffusion, vous pourrez pas voir nos champions de la cuisine. Mais il faut juste l'imaginer en train de mélanger dans un grand bol, là. Super! Donc, est-ce qu'on peut passer à l'étape de goûter maintenant? Qu'est-ce que notre goûteur nous en dit? Est-ce que tu peux nous confirmer si ça goûte la même chose ou pas? Lequel tu aimerais garder avec toi? Est-ce que c'est bon? Tu peux peut-être la mettre à côté, oui? Oui, on aurait dû penser effectivement à un verre d'eau. Oui? OK. Et si tu goûtais l'autre maintenant? Est-ce que tu peux nous dire lequel des deux est meilleur? Merci, papa, pour la bouteille d'eau. Quel est ton verdict? Est-ce que tu veux nous... Oui? Quelle note tu donnes au premier mélange? 1 sur 10, là.
Moi, c'est
là,
7. Il manque genre quelque chose. C'est un peu trop granuleux.
C'est trop granuleux. Un 7, quand même, moi, je le trouve généreux. Et puis, qu'est-ce que tu donnerais comme note à l'autre?
Ouais. Il a déjà été préparé avant, donc là, ça a perdu son goût avec le temps.
Ah ouais, tu trouves. Ils ont été faits hier, là, quand même. Mais est-ce que tu lui donnerais une meilleure note que l'autre?
Ouais,
OK.
Un 8.
Un 8. Bon, ben, coudonc. J'ai frais pu cuire mes macarons. Et notre cook, qu'est-ce qu'il en dit, lui? Ben, pars avec. C'est Tiguidou. Bon, merci beaucoup. J'en ai gardé pour vous à l'arrière. Merci pour votre adulte qui nous aide ce matin. C'est le fun d'avoir nos ados et nos jeunes adultes qui nous aident ce matin. Super. Donc, on a vu quelque chose de spécial dans cette recette-là. On a vu qu'on a choisi de ne pas utiliser tous les ingrédients. Et c'est un petit peu ce qui se passe hein, quand on prend des choses dans la parole de Dieu et on en prend seulement la moitié, la partie qui nous convient. Je ne sais pas si, si je vous posais la question, je ne vais pas vous poser la question ce matin, mais combien de gens, c'est une question pour vous-même dans vos cœurs, combien de gens jeûnent? Hein, est-ce que vous jeûnez des fois durant l'année? Est-ce que vous priez? Ou est-ce que vous décidez de dire, ben moi, finalement, la prière, je trouve que c'est un peu optionnel, ou le jeûne, ben dans le fond, ça, c'est plus comme pour les autres, là, ou dans le temps de Jésus, mais pas tant pour moi. Donc, des fois, on prend un ingrédient, comme qu'on a fait ce matin, on a pris les ingrédients secs, mais on a renoncé aux ingrédients liquides, et on décide de faire notre propre recette. Mais Dieu nous invite à utiliser ses ingrédients à lui et à faire sa recette à lui pour avoir les meilleures chances de succès. Et ça ne veut pas dire que les ingrédients secs sont mauvais, ils sont très bons, mais on a aussi besoin des ingrédients liquides. Donc, la prière, elle est excellente, le jeûne également, mais on a besoin parfois de mettre les deux ensemble. Et on va aller un petit peu plus loin dans cette explication-là. Donc, ce matin, vous allez voir qu'on va parler du jeûne et de la prière de manière un peu, on va faire un survol, la parole de Dieu. Pour voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça, pour trouver des exemples, pour nous aider un peu à comprendre. Vous aurez vu cette image-là si vous avez fait, si vous étiez présent lors de la prédication il y a 2 semaines. Si vous voyez bien, l'arbre ici sur le côté, il est fort, mais il est croche. C'est un arbre qui a grandi tout près de chez moi. Et près de chez moi, il y avait vraiment beaucoup de vent. Donc, l'arbre a vraiment tout grandi dans le même sens que le vent. Et même ses branches sont orientées du même sens que le vent. C'était une journée où il n'y avait pas une brise, même pas une brise légère, aucun vent, mais l'arbre était toujours penché. Donc, parfois, dans la vie chrétienne, on est un petit peu comme ça. On prend des mauvais plis. On est bien enraciné dans nos manières de faire, mais parfois, on oublie les manières de faire que le Seigneur nous appelle à mettre en pratique. Et ce matin, le défi que j'ai pour nous, c'est qu'on puisse apprendre à cuisiner ensemble de manière spirituelle, si je peux dire ça, qu'on puisse apprendre à utiliser les recettes que Dieu nous donne dans sa parole. Donc, évidemment, vous comprendrez que c'est un petit peu plus compliqué en ce sens que lorsque la parole de Dieu nous dit que dans certaines situations, nous avons besoin de prier et de jeûner, elle ne nous dit pas comment jeûner, elle ne nous dit pas jusqu'à quand jeûner, elle ne nous dit pas nécessairement comment prier ou jusqu'à quand prier. Et ça, c'est quelque chose qu'on découvre dans notre intimité avec Jésus. Donc, la lecture de la parole de Dieu, elle se fait toujours dans la dépendance au Saint-Esprit, dans l'intimité avec Jésus. L'expérience chrétienne, elle se vit toujours de manière personnelle avec Dieu et elle amène toujours des questions. En la lecture de la parole de Dieu, elle nous amène toujours des questions. Seigneur, comment tu veux que je fasse ça? Comment tu veux que je pratique ça? Et ce matin, je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions. Pourquoi? Parce que je ne suis pas le Saint-Esprit. Donc, le défi pour vous, ça va être d'ouvrir grand vos oreilles, ouvrir grand vos cœurs et demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans ce message-là? Que veux-tu de moi? Comme l'apôtre Paul aura dit au début de son ministère, hein, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? » Donc, sans plus tarder, commençons en parlant du jeûne. Donc, je vais vous présenter différents motifs pour le jeûne, qui est notre premier ingrédient dans notre recette ce matin. Et je vais vous donner des exemples bibliques. Évidemment, je ne pourrais pas mettre tous les exemples parce qu'il y aurait trop d'histoires ou trop de personnages bibliques. Donc, j'en ai sélectionné un par élément. Et je n'ai pas la prétention de vous dire que c'est exhaustif, mais ça va peut-être vous aller penser à d'autres exemples ou d'autres fonctions. Par contre, ça va nous aider à commencer notre réflexion ensemble. Donc, la Bible nous parle du jeûne comme d'une opportunité pour nous d'intercéder. On voit l'exemple, par exemple, de David. Donc, quand David, son enfant, tombe malade après qu'il ait commis l'adultère avec Bathsheba, alors qu'est-ce qu'il fait? David, il se met en jeûne pour intercéder pour son enfant. Donc, il pratique le jeûne dans un contexte d'intercession. On voit aussi Esther, hein, dans le livre d'Esther, qui se prépare à une confrontation. Donc, elle sait qu'elle va devoir aller confronter Aman, qu'elle va devoir parler au roi. Il y a une situation difficile qui se présente à elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle jeûne. On voit également Daniel qui jeûne pour entendre la voix de Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu va lui révéler une prophétie par rapport à la fin des temps. Donc, Daniel jeûne pour être en mesure d'entendre la voix de Dieu. Évidemment, vous connaîtrez l'histoire de Daniel, vous saurez que jeûner pour d'autres raisons, mais c'est une des raisons dans l'un de ces jeûnes qu'on voit dans le livre de Daniel. On voit aussi qu'à l'entrée d'une nouvelle étape, il y a des jeûnes qui se font. On voit Jésus, hein, avant d'entrer dans son ministère, il passe quatre étapes. On voit dans le jeûne et la prière. Donc, il se prépare à entrer dans une nouvelle étape. On voit la même chose aussi quand Moïse, avant d'aller amener les 10 commandements au peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne. Donc, avant d'entrer dans une nouvelle étape ou une nouvelle saison. On voit aussi le jeûne de repentance. Donc, on le voit, les gens de Ninive, hein, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils apprennent, qu'ils entendent la prédication de Jonas? La Bible nous dit qu'ils jeûnent. Ils proclament un jeûne. Donc, pour se repentir de leurs péchés. Ces quelques exemples, vous penserez peut-être à d'autres exemples, mais voici quelques exemples que nous voyons dans la parole de Dieu par rapport au jeûne. Nous voyons aussi différents types de jeûnes dans la Bible. Il y a des jeûnes qu'on pourrait qualifier de surnaturels. Donc Jésus, hein, 40 jours à jeûner, on est dans le domaine des jeûnes surnaturels. On voit des jeûnes aussi qui sont partiels et des jeûnes qui sont complets. Donc ici, je vous donne l'exemple de Paul. Quand Paul va avoir la vision de Jésus sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne et il prie pendant 3 jours. Il fait un jeûne complet. Mais nous voyons également, par exemple, nous pouvons donner l'exemple, j'aurais pu mettre Daniel aussi, mais il y a aussi le vœu de Naziréa dans l'Ancien Testament. C'était des gens qui jeûnaient de manière partielle, donc qui ne prenaient pas de vin, pas de raisin, pas de vinaigre. Donc, ils s'est dédié à Dieu en faisant un jeûne qui était partiel. Nous voyons également qu'il y a des jeûnes qui sont communautaires. Par exemple, l'Église d'Antioche, avant d'envoyer Paul et Barnabas, qu'est-ce qu'ils font? Ils jeûnent tous ensemble. Donc, comme Église. C'est la même chose avec Esther. Hein? Lorsqu'elle jeûne, elle dit « Va, rassemble tout le peuple et jeûner et prier ensemble pour moi. » Donc, c'est une activité communautaire. Et on voit aussi des jeûnes individuels. Donc, par exemple, Élie, dans son ministère, il part et il jeûne seul. Donc, la parole de Dieu nous présente ces différents jeûnes-là. On a des jeûnes également de différentes durées. Hein, des jeûnes de 40 jours comme Moïse, de 3 jours comme Esther, de 7 jours comme David, 21 jours comme Daniel. Et là, je pourrais en donner plus, je vous en ai donné juste quelques-uns. Ce que j'essaie de vous montrer à travers ce que nous voyons ici, c'est que le jeûne peut servir pour différentes choses. Et le jeûne chrétien, il est flexible. Donc, ce n'est pas nécessairement comme le jeûne est pratiqué dans d'autres religions où il n'y a qu'une seule manière ou un seul moment où est-ce qu'on pratique le jeûne. La foi chrétienne ouvre la porte à une intimité à la fois personnelle et communautaire avec Dieu où le jeûne peut s'expérimenter dans différents contextes et de différentes manières. À cette étape-ci, j'aimerais inviter mon frère Benoît, qui s'est porté volontaire à ma demande. Là, il était très généreux. Notre frère Benoît, il est médecin. Et puis, je voulais qu'il puisse venir peut-être nous donner quelques petits conseils. Peut-être ce matin, vous n'avez jamais jeûné ou vous avez eu des expériences de jeûne qui sont négatives. Et comme chrétien, on veut être sage dans la manière dont on pratique le jeûne. On ne veut pas le pratiquer de n'importe quelle manière. Le jeûne, ce n'est pas une compétition. C'est quelque chose qui se fait dans la sagesse. Et donc, on va parler de planifier son jeûne avec sagesse. Donc, on parle de tenir compte de son état de santé, tenir compte de son expérience, et tenir compte de son contexte de vie et de la durée du jeûne qu'on planifie.
Merci beaucoup, Mélanie, pour cette introduction. Donc, c'est ça, je suis médecin de famille. Donc, je ne suis pas à la recherche de nouveaux clients, OK? OK, sinon, moi, je pars tout de suite à la fin du message. OK. Donc, juste pour vous dire, je suis médecin de famille. Je ne suis pas vraiment un expert là, sur le jeûne, mais j'ai quand même certaines choses dont je voulais parler. Donc, premièrement, c'était sur un jeûne de 40 jours. Hein. Là, on a vu Jésus passer 40 jours dans le désert. Donc, il y a Moïse qui a passé 40 jours au Mont Sinaï sans manger, sans boire aussi, mais là, c'est un petit peu spécial. Puis aussi, il y a d'autres jeûnes, le jeûne de Daniel aussi, qui a quand même été assez long. Donc, puis on se dit, bien, un jeûne de 40 jours, ça se peut-tu, ça? C'est-tu dangereux? Est-ce que c'est exagéré? Je vais commencer avec un exemple qui m'avait frappé en 1981. Je suis vieux comme ça, j'avais 18 ans. OK. C'était dans un temps que j'étais intéressé avec... je participais avec Amnesty International au Cégep, puis on entendait parler d'un groupe de prisonniers, plus ou moins politiques, qui avaient décidé de faire une grève de la faim. C'était sur les îles britanniques, c'était des Irlandais qui faisaient partie de l'armée armée républicaine irlandaise, l'IRA provisoire, qui n'était pas tellement accepté. Il faisait une certaine lutte armée. Donc, il avait été jugé coupable puis il était en prison. Puis, il avait quand même... il avait perdu certains privilèges durant le temps qu'il était en prison. Puis, ils ont décidé de faire, entre autres, une grève de la faim. Donc, ils se sont mis ensemble, puis... ils ont commencé, puis finalement, après un certain temps, il n'y avait peut-être pas nécessairement eu gain de cause, mais ils ont arrêté, le groupe a arrêté de faire le jeûne après 53 jours. Donc, 53 jours, c'était arrêté. À ce moment-là, il s'appelait Bobby Sands. Lui a décidé de continuer. Il a continué, puis il en est décédé après 66 jours. Donc, 66 jours, c'est quand même beaucoup plus que 40 jours. Je me sers de cet exemple-là juste pour vous dire que le danger de faire un jeûne de 40 jours chez quelqu'un en bonne santé, le danger de mourir n'est pas très grand. Il peut y avoir d'autres risques, là. Mais le danger de mourir est à peu près nul ici. Donc, juste pour vous dire un peu qu'est-ce qui se passe avec le corps humain en temps de jeûne. D'abord, après quelques jours de ne pas avoir mangé, toujours important de boire, là, parce que, je veux dire, pour boire, au bout de 3 jours, ben ça va être fini, peut-être 4 jours ou 5, mais c'est encore nécessaire de continuer à boire. Donc, il y a une certaine adaptation qui se fait avec le corps humain. C'est-à-dire que là, on dit que le corps rentre en catabolisme, c'est-à-dire que le corps va utiliser les ressources du corps humain pour continuer à fonctionner, va tirer son énergie là, de ses tissus. Premièrement, en utilisant ce qui est utilisé dans le foie, ce qui est emmagasiné dans le foie en glycogène, puis ça va être transformé en glucose. Quand cette ressource-là commence à baisser, là, on va commencer à utiliser les graisses. Les graisses, on peut tenir quand même un bon bout de temps avec les graisses. Puis quand on est rendu à peu près, qu'il ne reste plus beaucoup, beaucoup de graisse, à ce moment-là, c'est beaucoup les muscles. Qui vont être utilisés là, comme carburant. Et même un peu plus tard, on va même se servir des enzymes. Ça veut dire, on est vraiment, vraiment, vraiment très, très loin là, dans le jeûne là, pour se servir des enzymes, parce que les enzymes sont aussi nécessaires à la survie. Donc, c'est un petit peu l'espèce de séquence qui a lieu là, en faisant un jeûne. Donc, aussi, c'est que le corps, dans ce genre de catabolisme-là, va quand même faire en sorte que tous les systèmes dans le corps humain fonctionnent, puis que les niveaux là, des différentes substances qui sont transportées par le sang, ça reste en équilibre. On appelle ça l'homéostasie. Donc, c'est ce qui permet à ce moment-là de continuer un jeûne quand même assez longtemps, sans avoir trop de difficultés en termes de risques pour la santé. Donc, on peut s'imaginer là, c'est certain que Une des choses qui arrive aussi durant le jeûne, après plusieurs jours, la personne va commencer à sentir moins d'énergie, mais en fait, c'est une réaction du corps pour entrer dans un mode de survie pour éviter de trop brûler nos ressources. Donc, c'est vraiment un système de survie qui est en place ici. Donc, ça va être beaucoup plus difficile de travailler, de prendre une longue marche ou même de se concentrer. Ça risque d'être un petit peu plus difficile aussi. Médical. Donc, ici, au point de vue médical, quelqu'un en bonne santé, pas trop de risques. Il y a des situations, j'ai quelques situations, quelques exemples, mais je veux dire, la liste est beaucoup plus exhaustive que ça, là, mais c'est juste pour vous donner des idées là, pour bien réfléchir à ces situations-là. Un cas très, très évident, là, vous allez vous en rendre compte, quelqu'un qui est diabétique, qui prend de l'insuline, arrêter de manger, c'est un problème, là. Parce que, je dis, normalement, il faut quand même manger régulièrement pour éviter les hypoglycémies. Si on donne la même dose d'insuline quand on a arrêté de manger, bien, on est en danger d'en mourir là, d'hypoglycémie ici. Ça, c'est un exemple assez flagrant là, que je vous donne ici là, pour ce qui fait qu'en général, un diabétique sous insuline qui veut commencer un jeûne, on va mettre un petit frein là-dessus. Là, hein? Ça serait possible chez quelqu'un qui comprend très, très bien son insuline, les différents types d'insuline. Insuline à longue action, insuline à courte action. Les insulines à courte action, on les utilise juste durant les repas. Mais si tu ne manges pas, tu ne devrais pas t'en servir de celle-là. Donc, puis aussi mesurer ton niveau de sucre régulièrement pour t'assurer que ton insuline de longue action ne devienne pas trop forte elle non plus avec la perte de poids. Donc, ce n'est pas n'importe qui là, qui peut rentrer dans un jeûne comme celui-là. Un autre exemple, c'est la prise de médicaments. Il y a des médicaments qui peuvent être assez risqués, puis des médicaments quand même assez utilisés, par exemple pour l'hypertension. Parmi les médicaments anti-hypertensifs, il y en a qui vont causer une perte de potassium dans l'urine. Donc, il faut s'assurer de reprendre le potassium pour éviter cette perte-là qui pourrait être potentiellement dangereuse. Donc, c'est dans la nourriture, normalement, qu'on retrouve le potassium. Mais là, si tu arrêtes de manger, les suppléments de potassium, mieux de parler à ton pharmacien, à ton médecin, avant d'entrer dans un jeûne comme celui-là. Il y a des risques qui sont assez importants. Une autre chose, qui est un traitement qui est très, très répandu, c'est le synthroïde pour traiter l'hypothyroïdie. Ce traitement-là, il est très fréquent. Là, okay? Mais quand ça fait un bout de temps que tu es dans le jeûne et que tu perds du poids, ça peut faire en sorte que le synthroïde, lui, il va s'accumuler dans le sang puis son niveau va monter. Puis là, vous tombez à ce moment-là en hyperthyroïdisme causé par le synthroïde. Bien, ça, c'est une situation qui peut être aussi très, très problématique. Donc, si vous êtes dans une situation là, que vous voulez vraiment entrer dans un jeûne puis que vous avez des doutes sur votre santé, vous avez un tel diagnostic, à ce moment-là, allez vers les bonnes ressources pour vous préparer à ça. Puis peut-être soyez un petit peu moins ambitieux peut-être par rapport à votre jeûne ici parce que de toute façon, le Seigneur, lui, connaît votre cœur puis c'est ça qui compte. Okay. Oh, c'est vrai, il y en avait un dernier. Les aspects psychologiques. Si quelqu'un souffre d'anorexie nerveuse puis veut faire un jeûne, c'est pas une bonne idée ça non plus. Normalement, quand tu commences un jeûne, tu te dis je vais jeûner telle période de temps. Puis il y a une fin. C'est mieux toujours d'avoir une fin pour dire OK, j'arrête telle date si ça va bien. Okay? Puis c'est ça, c'est mon engagement face à Dieu. si tu es anorexie nerveuse, on a déjà un problème ici. Cette personne-là va avoir un problème de distorsion de son image corporelle. Puis souvent, ils se trouvent trop grosses, hein? Même quand ils ont juste la peau et les os. Puis là, ils commencent à perdre du poids durant le jeûne. Oh, ils aiment ça. Oh, c'est un petit peu mieux, mais il en a un petit peu encore à perdre ici, là. Puis tu dis, bon, t'es rendu après 20 jours. Oh, je pense que je vais continuer une semaine. Ou une semaine. Oh, c'est le fun. Une autre semaine. Jusqu'à temps qu'il se ramasse à l'hôpital. OK. Dans des cas comme ça, okay, la maladie mentale existe aussi chez les chrétiens. Soyez sages et prenez pas des risques indus quand vous faites un vœu envers l'Éternel là, pour avoir une réponse à vos prières. OK, merci.
Merci beaucoup, Benoît. Donc, on comprend que le jeûne, c'est un espace où on rencontre le Seigneur. C'est pas une cure de minceur. C'est pas un défi. Vous êtes pas plus spirituel parce que vous jeûnez plus longtemps. C'est quelque chose qu'on doit faire avec sagesse. Donc, on tient compte de sa circonstance de vie. Hein, une maman qui est enceinte ou qui allait soumettre un enfant à un jeûne, ce genre de choses-là, c'est des choses qu'il faut être... faut vraiment être prudent, ce genre de choses-là. Et dans beaucoup de contextes, on est mieux d'aller vers un jeûne partiel. Lorsqu'on travaille, par exemple, on a besoin de notre concentration. Vous pouvez jeûner de dessert. Peut-être vous allez pouvoir jeûner de produits laitiers, ou etc. Donc, il y a différentes manières dont on peut vivre le jeûne. Et l'objectif est toujours de rencontrer Dieu. Donc, l'objectif, comme on le disait plus tôt, hein, c'est pas un objectif de minceur, c'est pas un objectif de performance. Le jeûne, c'est entre nous et Dieu. Donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait personne qui sache combien de jours vous avez jeûné dans l'année passée ou quel type de jeûne vous avez fait. C'est quelque chose qui se vit dans l'intimité avec Dieu, mais qui se vit avec sagesse. Si vous avez des questions, là, je vous invite, comme Benoît nous disait, à toujours consulter votre médecin ou un autre professionnel de la santé qualifié. Sur ce, on va continuer avec notre deuxième ingrédient, qui est la prière. Donc, différents types de prières, encore une fois, dans la parole de Dieu. On a des prières de supplication. Donc, la supplication, c'est lorsqu'on fait des requêtes à Dieu, on présente des requêtes à Dieu. On a des prières d'action de grâce, c'est-à-dire là où on exprime à Dieu des remerciements. Des prières de louange, là où on dit à Dieu qui il est pour nous, comment il s'est révélé à nous, où on le loue pour qui il est. On a des prières d'intercession, là où on prie pour d'autres personnes. On a des prières d'écoute. Seigneur, parle à mon cœur. Donc, on vient vraiment ouvrir son cœur pour entendre le Seigneur nous parler. On a des prières de lamentation qui sont des prières là où on exprime sa tristesse à Dieu, donc son désespoir. On a des prières d'imprécation. Peut-être c'est un mot que vous n'aurez pas souvent entendu dans l'Église. L'imprécation, c'est les prières dans lesquelles on exprime sa colère à Dieu, là où on demande à Dieu de nous faire justice. Donc, comme enfant de Dieu, plutôt que de déverser sa colère sur une autre personne qui nous a fait du tort, plutôt que d'essayer de se venger, on n'exprime ces émotions-là à Dieu plutôt que de faire du mal autour de nous ou de rendre à la personne ce qu'elle mérite. Et finalement, il y a des prières de confession, là où on va vraiment déverser les endroits, les domaines dans notre vie où on est, et lui partager comment on reconnaît finalement les endroits, les domaines dans notre vie où on est passé à côté, où on a mal agi, ou peut-être où on a refusé de faire les bonnes choses qu'on aurait dû faire. Il y a de la prière individuelle, comme Jésus, par exemple, lorsqu'il s'isolait sur la montagne. Il y a des prières collectives, comme Esther, lorsqu'elle faisait son jeûne. On a différentes structures de prières aussi que la Bible nous parle. Elle nous dit que Daniel priait 3 fois par jour. On voit que le psalmiste dit qu'il prie 7 fois par jour. Dans Thessaloniciens, on voit prier en tout temps. On a, dans la Bible ou dans les psaumes, on voit aussi la prière le matin, le midi, le soir. On voit même la prière la nuit. Donc, la prière, elle se vit à différents moments, à différentes fréquences. Et lorsque vous prenez un temps de jeûne, vous pouvez aussi déterminer avec le Seigneur un horaire de prière, si je peux le dire de cette manière-là. Vous pouvez mettre de la variété dans votre prière. En plus de ces types de prières-là, il y a un autre type de prière dont je vais vous parler ce matin. Vous allez voir un peu plus tard, on va faire une activité ensemble pour ceux qui sont intéressés. Donc, c'est la prière qui est accompagnée d'onction d'huile. Donc, dans la parole de Dieu, on voit d'abord les disciples de Jésus. Donc, ces 12 disciples, la parole de Dieu nous dit, ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Donc, Jésus envoie ses disciples et ses 12 disciples vont prier pour les gens et vont faire l'onction d'huile, qui est un symbole. Donc, un symbole de l'action du Saint-Esprit, de l'action de Dieu. Ce n'est pas magique, c'est un symbole qui, visible qui représente une réalité spirituelle. On voit plus tard dans la parole de Dieu, dans le livre de Jacques, que cette même pratique-là, elle est confiée aux anciens. Ils appellent les anciens. Donc, la parole de Dieu dit ceci. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'ils appellent les anciens de l'Église et les anciens prient... Et que les anciens de l'Église prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. » Donc, c'est une tradition qu'on voit qui nous est transmise dans la parole de Dieu. Si on continue, et là, c'est pour vous donner des idées. J'ai monté ce PowerPoint-là en pensant aussi à vous, parce que je sais que parfois, on entend un message le dimanche, et là, on se dit, oui, c'était quoi déjà, là? Il y a eu tellement d'informations, je ne suis pas capable de tout garder ça dans ma tête. On a un site, et sur le site de l'Église, vous pouvez aller réécouter le message, mais vous avez aussi accès au PowerPoint. Donc, vous pouvez retourner à la maison, si vous le désirez, pour aller chercher les PowerPoint des prédications. Donc, dans une vie de prière efficace, ça nous demande évidemment une certaine planification dans notre intimité avec le Seigneur. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà de votre côté à la maison. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à utiliser l'ingrédient de la prière dans votre vie de tous les jours. Donc, on n'utilisera pas nécessairement le jeûne à la même fréquence que la prière, hein? Mais la prière, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer à tous les jours. Donc, l'une des choses qu'on peut faire, on peut créer un horaire de prière. Je vous donne un exemple. Ici, on ne voit pas l'image en très gros, mais on a un missionnaire de l'Alliance qui s'appelle Blake Benson, qui est en ce moment missionnaire, qui a été en missionnaire la majorité de sa vie en Amérique latine. C'est un missionnaire avec qui j'ai travaillé, avec qui j'étais en contact. Et il a écrit un livre qui s'appelle... il n'est pas disponible en français, il est seulement disponible en anglais et en espagnol. Mais « L'horloge divin de la prière » est tout simplement... Il présente comment dans la Bible on voit à divers moments des gens pour prier pour différents sujets. Donc, ça, c'est un exemple. On voit aussi, même dans l'histoire de l'Église, hein, on voit dans les monastères, ils avaient les laudes, ils avaient les vêpes. Ils avaient des moments précis de la journée qu'ils dédiaient à certains temps de prière. Et donc, on a une belle flexibilité avec le Seigneur de choisir des temps dans notre marche avec lui, où est-ce qu'on peut se dédier à la prière. Et ça fait partie des ingrédients que Dieu nous demande d'utiliser et qui vont aider notre foi à grandir, tout comme le jeûne. On peut créer des listes de prières pour se familiariser avec les choses pour lesquelles on voudrait prier, pour pouvoir retourner aussi, puis pour voir, « Oh, c'est vrai, j'avais prié par rapport à telle chose il y a 2 mois et j'ai vu Dieu agir. » Donc, notre vie de foi est grandie. Hein, on peut incorporer des activités à notre vie de prière, à la vie de prière en mouvement. Moi, j'aime bien aller faire une marche de prière, par exemple. Quand j'ai de la misère à me concentrer, je pars puis je vais marcher. Pour prier en marchant, ça m'aide. Il y a des gens qui vont utiliser la nature, donc on va aller prier sur le bord de l'eau. Hein, ça les ouvre à la prière de louange, par exemple. « Oh Dieu, comment tu es grand quand je regarde le ciel que tu as créé, les oiseaux. » par exemple, il y a la lecture. Donc, parfois, ce que je fais, c'est que je lis un texte et je m'arrête et je prie au fur et à mesure que je lis ce texte-là. Pour pas juste le comprendre avec ma tête, mais pour prier que déjà Dieu le fasse descendre dans mon cœur puis qu'il m'aide à le comprendre. Ça peut être même en lisant un livre chrétien. Hein, quelqu'un enseigne sur un sujet précis dans lequel tu as besoin de grandir et tu prends ce que tu entends et tu pries par rapport à ça. « Seigneur, est-ce que je peux mettre ça en pratique dans ma vie? Comment est-ce que je devrais mettre ça en pratique dans ma vie? » Tu prends le temps de t'arrêter. Il y a des moments de prière qu'on peut vivre dans l'isolement aussi. Hein, comme la parole de Dieu nous dit, des fois, il faut fermer la porte de sa chambre puis aller en seul à seul avec Dieu sans aucune distraction. Et il y a beaucoup d'autres exemples qui peuvent être donnés de la vie de prière. Mais la prière, ce n'est pas quelque chose qui a besoin d'être plate. Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de dire, « Dans le fond, tu sais, je vais mettre ça de côté un petit peu, je n'en ai pas vraiment besoin. » un petit peu une fois de temps en temps, ça me va. La prière, c'est essentiel à la vie du chrétien et ça peut être vécu avec beaucoup de joie et avec beaucoup de plaisir. Mais il faut se permettre d'être créatif dans notre marche avec Dieu. On a vu ce matin deux ingrédients essentiels que la parole de Dieu nous donne, hein, la prière et le jeûne. Par contre, comme on a fait notre recette ce matin, hein, on avait nos ingrédients liquides, on avait nos ingrédients solides, mais il nous manquait un four. Ça serait quoi notre four dans ce contexte-là? Est-ce que ça se peut que des fois on a les bons ingrédients, on a la prière dans notre vie, on a le jeûne dans notre vie, et pourtant, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Il nous manque le four. Premier point que je veux vous amener ce matin, il faut adopter le temps de cuisson divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque recette prend son temps. En faire des macarons, ça se fait vite. On fait bouillir nos ingrédients liquides pendant quelques minutes, on ajoute le solide, on met au frigo, badam, c'est fini. Et il y a d'autres recettes, pas mijotées, ma viande ne sera pas bon rôtie, bien il va falloir que je laisse mijoter. Si je ne laisse pas mijoter, ma viande ne sera pas tendre, mes patates ne seront pas cuites, mes carottes vont être bien raides. Et c'est tous des bons ingrédients, mais s'ils ne sont pas assez cuits, ils ne sont pas assez cuits. Et quand on prie, quand on jeûne, il faut discerner le temps de Dieu. Seigneur, est-ce que j'ai besoin de continuer à prier pour ça? Comment est-ce que je dois prier par rapport à ça? Donc, on veut s'ouvrir à marcher pas à pas avec le Seigneur pour arriver à discerner, coudonc, ça manque-tu de cuisson, ça? Est-ce que ça manque de prière un peu? Est-ce que j'ai besoin de continuer un peu plus dans le pas à pas avec Dieu? On veut aussi un four ou un cœur qui fonctionne bien. Hein, la prière dans notre cœur et le jeûne qu'on vit aussi avec le Seigneur, faut que ça soit dans un bon espace. Il faut que notre cœur soit propre devant Dieu. Il faut que notre cœur soit en bon état. C'est comme si j'essaie de faire cuire quelque chose dans un four. Il y en a-tu qui ont déjà eu des fours comme ça, là? Peu importe ce que vous mettez dedans, là, ça brûle en dessous. Ou bien ça ne cuit pas assez. Fait que tu suis le bon temps, mais ça ne cuit pas. Il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas, le four est défectueux. Et des fois, notre cœur peut être défectueux. La parole de Dieu nous parle de gens qui ont prié, qui ont jeûné, mais qui ne l'ont pas nécessairement fait de la bonne manière. Je vais vous montrer deux exemples. Donc, la prière et le jeûne d'apparence. Ça se peut-tu des fois qu'on fait les choses de manière un petit peu hypocrite, qu'on le fait plus pour les autres que pour nous-mêmes, hein, pour avoir l'air un peu super spirituel? Eh bien ça, ça ne fait pas plaisir à Dieu. On va voir un petit peu dans la Bible un peu plus tard. Et il y a aussi la prière et le jeûne égoïste. Égoïste, vous me direz à quoi ça peut ressembler ça? Pour mes intérêts personnels. Donc, on va voir ça également dans la parole de Dieu. Donc, continuons ensemble pour comprendre brièvement là, dans différents textes. Donc, ici, on est dans un texte. Voici ce que ça dit. « C'est moi que, jour après jour, ils consultent. Ils veulent connaître mes voies. » C'est une bonne chose. On veut connaître qu'est-ce que Dieu veut. « Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et qui n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. » C'est bon, super. Ils veulent que Dieu fasse justice. Bonne chose. « Ils désirent se rapprocher de Dieu. » Wow, OK. Mais là, tout d'un coup, le peuple dit... À quoi bon nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu n'y fais pas attention? Et voici ce que le Seigneur leur répond. C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et vous traitez durement tous vos employés. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur des méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à vous faire entendre là-haut. Oups, il se passe quelque chose. Leurs bonnes intentions, leurs bons désirs sont mêlés à de mauvaises attitudes. Donc, c'est bien beau prier, c'est bien beau jeûner, mais si ton cœur, tu ne le laisses pas transformer par Dieu, si Dieu ne peut pas te parler pendant que tu jeûnes, te dire « il faut que tu changes ça dans ta vie », oui, mais Dieu, là, quand on prie, là, quand on jeûne, là, il ne nous répond pas toujours exactement par rapport à ce sujet-là. Des fois, il y a d'autres choses dans notre vie qu'il veut adresser. Et l'enfant de Dieu se laisse diriger par Dieu. La transformation qu'on vit dans la prière, dans le jeûne, ça doit affecter tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas juste « Dieu, fais-moi justice », c'est aussi « comment est-ce que moi, je peux être rempli de justice dans mes interactions avec les autres? » Donc, Dieu nous appelle dans ces temps de jeûne et de prière-là à laisser notre caractère être transformé. Donc, ce n'est pas juste pour les apparences, là. Ce n'est pas juste pour l'extérieur, là. C'est pour l'intérieur aussi. C'est pour l'intérieur de moi. On voit également un autre texte. Là, on était dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, et là, on va aller dans Matthieu. C'est un texte probablement que vous connaissez déjà très bien. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être quoi? Vu des hommes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Ce n'est pas un concours, là. Ce n'est pas des affaires des autres, là. C'est toi avec Dieu. C'est toi avec Dieu, le jeûne et la prière, d'abord et avant tout. Je vous montre également ces deux autres textes-là. Encore une fois, j'ai pris des exemples. Hein? Et là, on est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, où on voit la prière et le jeûne qui peuvent se vivre de manière égoïste. Jacques nous dira ceci, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » « Hey Dieu, tu me donnerais-tu un char neuf? Là? J'aimerais vraiment ça flasher devant les autres. » Et là, oups, comment ça que Dieu ne répond pas? je vous raconte une petite histoire. Il y a quelques années, j'ai un ami qui était pasteur et puis il me dit qu'il y avait souvent un monsieur qui venait le voir et qui lui demandait de prier pour lui. C'est un monsieur qui avait une maladie particulière. Et il priait, à chaque fois il priait, à chaque fois il priait. À un moment donné, il lui est venu à l'esprit de demander à la personne, « Pourquoi est-ce que tu voudrais que Dieu te guérisse? Qu'est-ce que tu aimerais faire avec la guérison que Dieu veut te donner ou pourrait te donner? » Et l'homme lui dit, « Ben, tu sais quoi, c'est parce que tous mes amis, là, ben, ils sortent au bar, ils vont ramasser des femmes, puis ils font la fête ensemble, puis j'aimerais vraiment ça, moi aussi, être capable de sortir avec eux. » Alors, le pasteur lui a dit, « Écoute, peut-être que tu veux adresser ça avant de rechercher que Dieu te guérisse. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faut que tu regardes avec le Seigneur. » Donc, on jeûne, on prie, mais ce n'est pas dans le but de satisfaire nos propres passions. Un autre texte dans Zacharie nous dira cela, et c'est l'Éternel qui parle, il dit, « Dis à tout le peuple du pays, aux prêtres, quand vous avez jeûné et pleuré le cinquième et le septième mois, cela depuis 70 ans, ça faisait longtemps qu'ils jeûnaient, hein, qu'ils priaient, est-ce que c'est pour moi que vous avez jeûné? » Dieu leur demande, « C'était-tu pour moi? » Oups! Non, mais c'est une question qui est un petit peu dure, là. On peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour nous-mêmes sous un couvert de religiosité. Est-ce que c'est pour Dieu que je prie, que je jeûne, ou est-ce que c'est pour moi-même? Et c'est des questions qu'on a besoin de se poser. Et souvent, la première réponse qu'on se donne, c'est « Ben non, ça ne me concerne pas, ça. Moi, je n'ai jamais prié ou jeûné pour les apparences. Je n'ai jamais fait ça de manière égoïste. » Eh bien, la parole de Dieu nous dit ceci. Pourquoi est-ce que tu vois la paille dans l'œil de ton frère, mais tu n'es pas capable de voir la poutre dans le tien? Donc, on a besoin de s'examiner devant Dieu, et ça demande souvent du temps à passer intimement avec le Seigneur et beaucoup d'humilité. Donc, ce n'est pas nécessairement des choses qu'on reconnaît chez soi très facilement. On trouve ça plus facile de juger les autres qu'on se trouve de s'évaluer nous-mêmes. Donc, il faut ouvrir son cœur à Dieu. Et là, je termine avec un petit récapitulatif ce matin, une petite recette pour nous. Donc, il y a deux semaines, on a vu qu'il faut nourrir une grande foi pour un grand Dieu. Donc, il faut laisser à Dieu le privilège d'être un grand Dieu. Et il faut cultiver le genre de foi qui l'honore. Nous avons vu aussi qu'il faut utiliser les ingrédients que Dieu nous donne. Et parmi les ingrédients que Dieu nous donne dans notre vie de tous les jours comme chrétiens, il y a le jeûne et il y a la prière à pratiquer de manière sage, de manière qui est cohérente avec notre état de santé et avec nos autres responsabilités. On veut être un bon témoignage quand on jeûne et qu'on prie. On veut respecter le temps de Dieu. Hein? On veut continuer à prier comme on a besoin de prier. On jeûne comme on a besoin de jeûner. On ne veut pas ralentir les choses, mais on ne veut pas les précipiter non plus. Et finalement, il faut garder notre cœur, notre outil de travail, notre outil de cuisson en bon état. Donc, il faut veiller sur son cœur dans ce processus-là. La vie chrétienne, c'est plus que des disciplines spirituelles. La vie chrétienne, c'est un être qui est transformé par Dieu à travers ces pratiques spirituelles-là. Donc, on ne rentre pas n'importe comment dans la prière, on ne rentre pas n'importe comment dans le jeûne. On rentre avec un cœur sincère, avec un cœur prêt à s'examiner, avec une vie prête à être transformée, avec un cœur qui est prêt à se laisser diriger par Dieu. Et ce matin, on va terminer avec trois chants. Avant d'aller vers les chants, je vais vous parler de deux exercices. Il y a un exercice qu'on va faire ensemble ici à l'église. Comme toujours, c'est toujours sur une base volontaire et selon vos besoins. Donc, ce matin, cet exercice-là va s'adresser de manière plus spécifique aux gens qui sont malades. Donc, les gens qui sont malades, aujourd'hui, vont avoir l'opportunité de recevoir de la prière avec onction d'huile par les anciens dans l'église. Donc, les anciens, tout à l'heure, vont s'avancer à l'avant. Et si vous aimeriez exercer votre foi et demander à Dieu de vous guérir par rapport à ce que vous vivez, que ce soit quoi que ce soit, vous pouvez vous avancer brièvement, demander la prière à l'ancien. Il va vous oindre d'huile. Comme toujours, ce n'est pas obligatoire. C'est selon ce que Dieu met sur votre cœur. Et ensuite, il va y avoir un exercice à la maison. Donc, l'exercice que je vous propose de faire à la maison, c'est de planifier un petit temps de jeûne et de prière. Donc, on en a parlé plus tôt, c'est quelque chose qui se fait avec sagesse. Hein? Ça peut être un jeûne partiel, ça peut être un jeûne complet très court. On y va avec quelque chose qui est basé sur notre expérience aussi et notre réalité. Donc, si vous n'avez jamais jeûné, ce n'est pas le temps de s'embarquer dans un 10 jours de jeûne, là. Le corps a besoin d'être entraîné et on a besoin de faire les choses avec sagesse. Mais je vous invite à utiliser ces ingrédients-là que Dieu vous donne, à les mettre en pratique. Et je vais reprêcher à nouveau le 15 septembre. Donc, ça nous donne à peu près 6 semaines. D'ici là, si vous avez pratiqué le jeûne et la prière, vous avez vécu quelque chose avec le Seigneur, vous allez pouvoir venir me voir. Et je vais essayer de présenter brièvement quelques courts témoignages de cette expérience-là pour que, comme Église, on soit encouragés de voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes frères et sœurs quand on pratique le jeûne, la prière que Dieu nous a donné comme des ingrédients là, essentiels dans notre marche chrétienne. Donc, ce matin, Louise est venue me voir rapidement et elle me disait qu'elle avait un petit témoignage par rapport à la guérison. Je n'avais pas parlé à Louise là, du thème du message ce matin. Donc, Louise, je vais te donner à peu près 1 minute et quart pour partager très, très, très brièvement qu'est-ce que tu sens que le Seigneur a fait pour toi. Si tu veux, ou tu peux parler fort derrière. En attendant, si les musiciens veulent s'approcher et s'installer, on va être rendu aux chants finaux bientôt, juste après.
Je veux vous donner un témoignage.
Je ne suis pas sûre que les gens vont t'entendre, par exemple.
Ah, OK. Je vais vous donner un témoignage. Je m'appelle Louise et il y a beaucoup de personnes qui ont prié pour ma jambe. Et aussi d'autres frères et sœurs que je connais personnellement. Et Jésus m'a guéri de ma jambe. J'ai eu un miracle. Amen.
Merci beaucoup, Louise. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Donc, je vais inviter les anciens à s'approcher à l'avant pour la prière. Donc, pendant que les chants vont débuter, si vous sentez que vous aimeriez recevoir de la prière, je vais vous inviter à vous approcher d'un ancien. Donc, vous avez de l'huile ici et dans le petit boîtier aussi blanc, là. Vous pouvez prendre chacun une fiole d'huile, vous installer. Et pendant les chants, j'ai invité aussi notre frère Daniel Marino. Donc, Daniel Marino, il sert avec moi sur le réseau de direction au niveau du district, qui fait un petit peu un rôle... C'est similaire à un rôle d'ancien auprès de Papa Kenzo, qui est également notre directeur des églises ici au Québec. Donc, vous allez pouvoir vous approcher et ils vont prier pour vous pendant les chants. Exceptionnellement, si vous avez un enfant qui est à la pouponnière ce matin, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher tout de suite. Vous pouvez attendre à la fin des chants parce que si vous avez besoin de vous approcher, ben, on veut que vous ayez la liberté de vous approcher, même si vous avez un enfant. Donc, je vous laisse débuter. Et avant de débuter, peut-être je vais faire tout simplement une prière générale. Donc, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole qui nous donne des pistes de solutions lorsqu'on se sent complètement dépourvu, Seigneur, et on se demande, mais pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas dans ma vie spirituelle? Seigneur, tu nous as donné la prière et le jeûne comme des outils, comme des opportunités de te rencontrer, Seigneur. Et on veut utiliser ces ingrédients-là avec sagesse, Papa. On veut te laisser œuvrer dans nos cœurs, nous transformer. On n'est pas juste là pour recevoir de toi des bénédictions, mais on est là aussi pour être transformés et devenir des hommes et des femmes qui sont de plus en plus à ton image. On sait que parfois la transformation, ça fait mal. On aime mieux voir les autres comme des problèmes que nous-mêmes. Mais Seigneur, on veut humblement, Seigneur, changer de posture ce matin. Et on veut te dire, Seigneur, viens et fais ton œuvre en nous. Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Et ce matin, nous te confions chaque personne qui est malade, qui va s'approcher pour recevoir la prière. Nous te confions également toute autre personne, Père, qui peut-être ce matin ne sentira pas à l'aise de s'avancer, mais qui va t'ouvrir son cœur, que tu puisses toucher chacun ce matin. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous te prions. Amen. Amen.